Bonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre partie magazine jusqu'à midi et demi, l'heure du grand journal de la mi-journée, tout à l'heure avec Marion Calais. Bonjour ma chère Julia.
Bonjour Patrick et bonjour à tous.
Alors en plus, pour ceux qui veulent voir Julia, il faut aller, elle me l'a montré fièrement, elle a bien raison, dans Public de ce jour, c'est ça non
de... Exactement, Public voilà. De cette semaine, puisque j'aurai le plaisir de présenter une soirée exceptionnelle, une rétrospective de l'année People en partenariat avec le magazine Public. Ce sera le vendredi 28 décembre prochain de 20h à 22h30 sur Europe 1.
Et bien, vous voyez, un petit peu de pub.
Exactement, merci pour la promo Patrick.
Bah oui, je suis pas radin quand
même. Et puis c'est gratuit, hein. Ah bah ça fait du bien.
Voilà. Allez, comme nous tous, Julia, dès que l'on parle radin, ben ça fait tilt. Vous vous dites, ah évidemment, ça me fait penser à...
Picsou.
Non, dans son entourage, on a tous des radins. Bon, on va dire les noms, on n'est pas dans la délation aujourd'hui. C'est quoi, c'est qui être radin? Est-ce Gérard Depardieu, lui qui veut échapper aux impôts, mais qui en a déjà payé beaucoup? Ou est-ce plus sérieusement un grippe sous-compulsif, quasiment malade, ou un nouveau consommateur qui compte son argent et gère au mieux ses dépenses? La radinerie, est-ce l'anti-bling-bling? Discrétion, pas flambeur, un poil économe. Le refus aussi d'une société qui nous amène à dépenser à tout va. Allez, nous parlons donc de ce sujet avec nos invités, Julia, aujourd'hui.
Valérie Dewaert, qui est rédactrice en chef du site radin-au-pluriel.com. Également avec nous Antoine Joutot, qui est directeur marketing et commercial du site leboncoin.fr. Et Gérard Mermet, qui est sociologue de la consommation et auteur de Francoscopie, les Français au quotidien version 2013, aux éditions Larousse.
Et à partir de midi, également avec nous en studio, Michael Ferrari, coach, créateur du blog Esprit Riche, auteur de Devenez Riche aux éditions Le Duc. J'imagine que vous aurez beaucoup de questions à lui poser.
Et nous attendons vos réactions. Le standard d'Europe 1 est ouvert. Sommes-nous tous devenus radins à quelques jours des fêtes de fin d'année? Nos comportements d'achat changent-ils aujourd'hui en temps de crise? Est-ce du bon sens ou de la radinerie? On attend vos témoignages. Aussi sur Europe1.fr, aussi sur la page Facebook d'Europe 1 Midi. Il y a déjà des réactions, celle notamment de Liosis qui nous dit « Vu le niveau de tact qu'on nous impose, c'est pas franchement étonnant qu'on cherche à dépenser le moins possible. »
Oui, allez, c'est parti pour l'émission avec vous, en votre compagnie. Alors, qui sont les radins, Valérie Dewaert? Est-ce qu'on a une idée, puisque vous, avec votre site radin.com, vous devez avoir quand même une petite vision de ce que sont les radins aujourd'hui en 2012?
Oui, tout à fait. D'abord, bonjour. Alors, les radins, l'image de l'arpagon, pingre, picsou, etc., c'est un peu terminé. Les radins, aujourd'hui, c'est une...
Ça existe toujours. Hein.
Ça existe.
Vous pouvez vous confirmer.
Les sportifs de la radinerie qui découpent des bons de réduction, qu'on voit dans les magasins qui font passer un ticket par un ticket pour les offres de réduction. Bon, ça existe encore, mais aujourd'hui, c'est plus exactement ça. Et puis, il faut savoir que le radin, c'est une radine. Ça, c'est nouveau aussi.
Ah oui ?
Ah oui, tout à fait, puisque notre communauté, qui est de 2 millions de personnes, est à peu près à 77% de femmes. Donc, le radin est une radine.
Oui.
Alors, c'est une radine, c'est une rebelle. C'est une rebelle qui ne veut plus consommer comme on consommait avant, c'est-à-dire qu'elle veut dépenser moins d'argent pour vivre mieux.
Oui.
C'est vraiment ça, le sens du radin aujourd'hui.
Oui, alors ça c'est le sens du radin aujourd'hui. Dans l'image généralement qu'on avait des radins, c'était une catégorie quand même un peu à part. Non, on pouvait les identifier assez facilement.
Oui, alors nous on les appelle les sportifs de la remise, qui découpent effectivement les offres de réduction, qui participent à tous les jeux pour avoir des bons d'achat, des gratuits, des échantillons, faire du test, etc. Et c'était presque un challenge.
Oui.
Le challenger radin qui va tout avoir pour pas un rond.
Qui, dans les rayons, va se mettre à plat ventre pour essayer de chercher la dernière promo qui est sous les rayons, etc. Ça existe, en fait, encore. Quand, Antoine Joutot, quand vous avez lancé votre site, alors, c'est plus, vous avez surfé sur, évidemment, le phénomène Internet, etc., mais vous vous adressiez aussi aux gens un petit peu radins, quand même, non?
On s'adresse à monsieur et madame tout le monde, parce que nous on est à la tête d'un site de petites annonces, donc ça concerne l'immobilier, l'automobile,
Qui cartonne,
qui cartonne, aujourd'hui c'est 5 millions de personnes tous les jours sur le site. Alors nous on s'adresse plutôt, moi je préfère le terme économe au terme de radin, qui est peut-être un poil péjoratif.
Radin parce que voilà, c'est péjoratif. Encore aujourd'hui, quand on parle
pour moi, radin,
de radin,
c'est l'avare.
Oui, il y a encore un côté extrêmement péjoratif autour du radin.
Gérard Mermet, vous qui étudiez les comportements des Français depuis des années avec votre célèbre Francoscopie, qui est à chaque fois en fait un régal, est-ce que ce terme, on l'utilise en fait encore aujourd'hui ou il est devenu trop péjoratif?
Non, je pense qu'il exprime d'une façon excessive une réalité qui est simplement que les Français ont aujourd'hui une attitude un peu différente envers la consommation, le système de la consommation. C'est ce qu'ils nous disent notamment dans les enquêtes, en particulier qualitatives, hein, dans les groupes de discussion ou des interviews en profondeur. Donc, ils ont le sentiment que l'offre, pendant très longtemps, a été dominante. Hein. On avait un système vertical où les marques, les enseignes de distribution, etc., s'adressaient aux consommateurs de haut en bas, avec parfois un petit peu d'arrogance. Alors l'arrogance n'a pas toujours disparu, mais elle est quand même moins grande aujourd'hui. Et au lieu de ce système vertical, on est aujourd'hui dans un système horizontal où ce sont, j'allais dire, les Français qui parlent aux Français, disons les consommateurs qui parlent aux consommateurs à travers les blogs, les forums, le téléphone portable et tous les moyens qui sont à leur disposition et qui s'échangent les bons plans, les mauvais plans et qui donc rééquilibrent ce rapport de force. Il ne faut pas être angélique, il y a toujours eu un rapport de force entre l'offre et la demande. Il a été longtemps favorable à l'offre, il est aujourd'hui favorable à la demande.
Oui. Quand même, est-ce que être radin, autrefois c'était très mal vu quand même. On se disait, oui, non, tu peux donner en fait un petit peu, d'aller à ce point mettre en avant les radins dans des slogans, dans des campagnes, voire un site, Valérie de Wart, ça veut dire que ça a changé quand même notre regard, oui. Notre vision.
Oui, ça a changé et comme vous le disiez justement Gérard, c'est qu'aujourd'hui le radin il est solidaire, c'est-à-dire qu'il s'échange grâce à Internet les bons plans, les promos et ils peuvent de ce fait vivre
c'est
leur radinerie.
Ah
bah c'est l'Eldorado, oui, ils peuvent vivre leur radinerie de façon décomplexée puisque maintenant finalement on s'échange et il est plutôt de bon ton d'être radin.
Ouais.
Donc c'est ça aujourd'hui qui change
la notion. Il est bon ton d'être radin.
Bien sûr.
Il est bon ton et je pense
oui, parce que
ça
avant...
concerne tout le monde hein, je pense.
Ouais.
C'est pas uniquement une classe socio-professionnelle de gens qui n'ont pas d'argent. Je pense que ça concerne toutes les classes socio-professionnelles, oui. Allant du cadre dirigeant jusqu'à l'ouvrier. Tout le monde a envie d'économiser de l'argent.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un sujet extrêmement sensible où tout le monde a une relation difficile avec l'argent parce que tous les jours...
Mais est-ce que le radin, à la base, c'était quand même économiser de l'argent? Un véritable radin, Valérie de Wart. C'est difficile, Gérard Mermet.
Il peut y avoir deux attitudes complémentaires. Ouais. On peut vouloir dépenser autant pour avoir plus, hein, ce qui est quand même une satisfaction importante pour le consommateur, qui a l'impression de maîtriser sa consommation et de ne pas être victime, ou en tous les cas complice de ce fameux système de la consommation, donc il reprend la main, ou on peut vouloir dépenser moins pour avoir autant. Et c'est le cas notamment de ceux qui ont des fins de mois un peu difficiles, qui ont vu leur pouvoir d'achat se réduire, enfin l'augmentation du pouvoir d'achat se réduire progressivement pour arriver à une baisse de pouvoir d'achat depuis maintenant un an qui va probablement se prolonger dans les prochaines années. Donc il y a des attitudes complémentaires, parfois paradoxales, mais c'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait le paradis parce que ça demande du temps, il faut s'investir quand même, il faut échanger, il faut expérimenter, etc. Et les consommateurs, moi je l'observe tous les jours, sont dans des stratégies d'adaptation et d'expérimentation.
Oui.
Voilà, face à la crise, ils ont bien compris que ça allait durer et que ça serait compliqué pendant encore pas mal de temps. Donc ils expérimentent, ils se disent est-ce que finalement je peux continuer de vivre comme je le faisais avant mais avec des dépenses différentes, mieux maîtrisées, ou est-ce qu'il faut que je balance le plus possible d'argent pendant qu'il m'en reste. Il y a aussi cette dimension fataliste, hédoniste qui existe dans la société. Donc il y a des attitudes très différentes.
Et est-ce que c'est aussi une question d'éducation que d'être radin ou pas?
Je ne pense pas, parce que c'est d'abord avant tout une attitude psychologique. Ne pas vouloir dépenser plus, ne pas vouloir donner tout son argent, garder la notion de la peur de l'avenir. Il faut que j'aie, donc il ne faut pas trop que je dépense, il faut que je garde, etc.
Non mais justement, si on l'a ou si on la possède, cette valeur, comme vous dites...
Alors l'éducation se fait aujourd'hui grâce au site, justement, parce que les gens, en venant s'inscrire sur le site, apprennent...
Radin.com, votre site.
Voilà, ils apprennent à dépenser moins, ils apprennent les astuces, les trucs, le vinaigre blanc, par exemple, c'est un très bon nettoyant et ça coûte nettement moins cher qu'un produit détergent normal. Donc en fait, ils s'éduquent sur le site en s'échangeant les bons plans.
Je suis assez d'accord aussi. Je pense que...
Le bon coin.
Sur le bon coin, nous, ce qu'on observe, c'est... Bon, évidemment, il y a des radins, il y a des gens qui ne veulent pas dépenser inutilement, mais je pense que surtout, c'est aussi une vision assez positive des choses, qui est de dire, je peux faire des bonnes affaires, je trouve les produits adaptés, je trouve des produits qui ont une histoire, etc. Et l'aspect radinerie est un peu moins présent, c'est plutôt l'aspect, je ne veux pas dépenser mon argent inutilement.
Allez, nous allons poursuivre dans un instant, en attendant vos appels au 3921, Julia, ainsi que par Internet, la confusion entre radin et économe, et puis l'adaptation, c'est ce que l'on disait à notre époque, assez difficile.
Alors la radinerie, c'est un vilain défaut ou bien un bon sens en période de crise? On en parle avec vos témoignages. D'ailleurs, si vous faites partie de ces gens dont les codes promo et les bons de réduction n'ont absolument aucun secret, bienvenue témoigner en direct sur Europe 1. 3921, le standard est ouvert.
Europe 1 midi, 11h30, 13h, Patrick Roger.
Les sites internet pour consommer moins cher cartonnent. Alors on se pose cette question dans le débat d'Europe à midi. Sommes-nous tous devenus radins? On en parle avec nos spécialistes en studio et évidemment avec vos témoignages et vos réactions au quotidien au 3921. Patrick.
Oui, nos invités, donc Antoine Joutot du site leboncoin.fr, Valérie De Wert, rédactrice en chef du site radin.com, et Gérard Mermet, auteur de Francoscopie, les Français au quotidien. Quand vous avez lancé votre site leboncoin.com, vous avez, ce que je disais tout à l'heure, un peu géré sur le fait que nous sommes en période de crise, que les Français gèrent au mieux leur budget aujourd'hui, et donc finalement ce sont des vides-greniers géants qui s'opèrent sur les sites internet.
Oui, Le Bon Coin, c'est un site d'utilisation qui est un vide-grenier, une brocante à taille gigantesque, puisqu'il y a presque 22 millions de produits à vendre sur le site. C'est un site qui rassemble 5 millions de Français chaque jour, qui recherchent des biens immobiliers, des biens automobiles, des biens de consommation courante et puis des emplois. Quand on a lancé le site, ce sont d'ailleurs les Français qui ont choisi le nom Le Bon Coin, parce que ça inspirait la bonne affaire au coin de la rue, le bon plan, le bon prix.
Enfin, c'est vous quand même qui l'avez mis en place, quoi, même si vous n'avez pas fait voter les Français sur l'appellation.
Alors on a fait voter les Français sur le choix de la marque, qui aurait pu s'appeler... Chez Georgette, par exemple, c'était un des noms qui avait été
C'est moins cher en même temps que d'aller voir une agence de publicité.
C'est largement Le Bon Coin. Oui, on fait des économies de partout, on se refait pas.
Ouais.
Bah, c'est Le Bon Coin qui a gagné à plat de couture parce que, justement, c'est un nom qui porte le nom d'un hôtel-restaurant, qui inspire confiance et puis qui fait pas peur.
Ouais. Et donc, et les Français se sentent rassurés parce qu'ils peuvent échanger entre eux.
Parce que les transactions se font... en face à face, et quand vous achetez un bien d'occasion, quand vous avez le vendeur en face de vous, vous pouvez le regarder droit dans les yeux et regarder le produit aussi, et puis lui poser toutes les questions que vous souhaitez, lui demander s'il a des factures, et puis lui expliquer l'historique du produit. Et donc, aujourd'hui, 90% des transactions sur Le Bon Coin se font en face à face. Et je peux vous dire que l'aspect négociation de prix est très présent, puisque évidemment dans la discussion c'est le premier élément qui est abordé.
Ça veut dire qu'ils sont un peu qu'on a le sens du marchandage, ou alors que nous sommes radins?
Je pense qu'il y a le sens du marchandage. Évidemment, vous savez que c'est un bien d'occasion. C'est un bien d'occasion.
Ah oui, c'est la base du radin.
Oui, négocie. C'est un négociateur né.
Je pense que les Français sont des négociateurs nés. Puisque c'est le principe du bien d'occasion, c'est-à-dire il est pas neuf, donc vous pouvez discuter parce que vous êtes intéressé par un objet qui a déjà été utilisé. Donc vous pouvez faire baisser le prix parce que vous savez que quelqu'un en face de vous est prêt à le vendre.
Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on vend parfois tout et n'importe quoi, et à n'importe quel prix également. Vous pouvez avoir des biens à 3, 5, 6, 7 euros. On se dit finalement, mettre l'annonce en ligne, ça revient quasiment au prix du produit, non?
Oui, mais je pense que là, on touche à des transactions qui sont aussi pour rendre service. Parce que je pense que beaucoup de gens détestent jeter, aussi détestent voir des produits en excellent état finir dans leur cave ou dans leur grenier.
Ça, c'est une autre dimension.
Oui, c'est une autre dimension. Qui est très intéressante. Mais c'est l'inverse, finalement.
C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer quelques euros et en même temps, ils vont rendre service à quelqu'un qui va trouver utilité à leur objet. Ouais. Et je pense que ça, c'est aussi une espèce de consommation utile, raisonnée. Et ça, c'est une tendance réelle.
Gérard Mermet.
Oui, je pense qu'effectivement, parmi les motivations, il n'y a pas seulement celle liée à l'argent. Bien sûr, il faut être plus rationnel à un moment où le pouvoir d'achat est menacé. Mais il y a aussi cette dimension, je dirais, d'abord de la convivialité, parce que ces sites permettent d'abord de façon numérique, dans le monde digital, de se rencontrer, puis après dans le monde réel, parce qu'il y a une rencontre et les gens y sont sensibles. Et c'est une rencontre qui est d'une autre nature que celle d'un commerçant qui a sa boutique en ville. Et puis, il y a aussi cette façon de redonner une vie supplémentaire à un produit qui habituellement, une fois qu'il avait fait terminer son usage ou qu'on déménageait, on avait tendance à le jeter et à le remplacer par un neuf. Donc aujourd'hui, il y a l'idée que une idée un peu écolo-environnementaliste qui consiste à dire ces objets ne sont pas morts, il faut prolonger leur vie parce que en même temps, on sera pas complice de la destruction de l'environnement. Vous savez, consommer étymologiquement, ça veut dire détruire. Ouais. Et les Français, à force de leur expliquer, ils ont compris. Et donc, ben, ils essayent de détruire le moins possible tout en consommant.
Oui, il y a déjà, Julia, des réactions en ce
mais
sens
oui,
hein, sur la
page Facebook. C'est précisément ce que nous dit Florence. Effectivement, le bon coin iberadin.com sont devenus mes sites préférés. Je préfère acheter d'occasion et me faire plaisir plus souvent, notamment des vêtements de bébé. Ce serait tellement gâché de tout payer plein pot quand on voit ce qui se vend. Puis en plus de ça, donnons une seconde vie aux objets.
Allez, dans un instant, nous poursuivons sur cette évolution du comportement d'achat, notamment en temps de crise avec nos invités. Sommes-nous devenus radins? C'est la question du jour.
Europe 1 midi, 11h30, 13h, Patrick Roger.
Et le débat d'Europe à midi s'interroge aujourd'hui. Sommes-nous tous devenus radins? On en parle avec nos invités, avec vous évidemment, Facebook, la page d'Europe à midi, europe1.fr et aussi le standard 3921.
Oui, absolument. À propos de standard, il y a d'ailleurs Anne qui nous dit « Le radin est égoïste, contrairement à l'économe, et je ne vous appellerai pas car il faut payer. » Alors c'est vrai qu'il faut payer pour nous appeler, vous avez bien raison ma chère Anne, mais on vous rappelle en fait immédiatement.
Exactement.
Et ça ne vous coûte pas très cher et vous pouvez passer évidemment sur Europe 1. Alors pour Cédric, un témoignage. Pour Cédric, la radinerie est loin d'être un vilain défaut, bien au contraire, ce trentenaire est fier de se revendiquer radin. Il nous explique ce que cela signifie pour lui.
Être radin, c'est avant tout pour moi ne pas se faire avoir par le système. Dans le système de consommation qui est de bon augure en ce moment, on nous pousse toujours à acheter toujours plus vite, toujours plus. Et être radin, justement, c'est un petit peu tout simplement prendre le temps. Essayer de choisir la bonne offre. Pour moi, c'est pas forcément être le gars, le gripsou ni le pixou comme on l'a dans l'inconscient collectif. Quand je suis devenu papa de deux jumelles, donc c'est déjà radin, mais là, je l'étais encore un petit peu plus parce que l'idée, c'était de fournir tout l'essentiel sans rogner sur la qualité, quoi. J'avais besoin d'une poussette pour mes jumelles. Vous imaginez que dans une voiture, c'est pas forcément facile à rentrer. Il n'y en avait qu'une seule qui rentrait vraiment dans la voiture. Et enfin, je me suis vraiment évertué à chercher un petit peu partout sur la toile. Ça m'a pris un petit peu de temps. Mais finalement, j'ai trouvé une offre qui était intéressante. Et aujourd'hui, j'en date absolument pas.
Voilà, alors si on en croit ce témoignage donc avec Marina Pruzès de Cédric, finalement, on se dit qu'il n'y aura plus de radins dans notre société, mais que des économes, hein, Valérie de Wart, non ?
Alors, il y aura des économes, mais il y aura aussi des consommateurs rebelles.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accepte plus de se faire avoir par la consommation à outrance. On veut acheter, mais on veut acheter intelligemment pour que ça ne nous coûte pas trop cher. On voit le cas de Cédric, bon, il y a des jumelles, ça fait les frais divisés par deux. Sur Internet, effectivement, les vêtements de bébé, on voit, sont moins chers. Donc effectivement, aujourd'hui, consommer moins cher, mais sans être vraiment un harpagon ou avec... C'est devenu un geste naturel. Finalement, on n'existe plus parce qu'on consomme. On consomme intelligemment, c'est tout.
Oui, en prenant du temps, ce que nous disait Cédric à l'instant, hein, il dépense de l'énergie, si je puis dire, hein, pour ça.
Il en
faut parfois.
Oui,
hein.
Et il disait aussi que ce n'était pas par pingrerie, mais simplement parce qu'il ne voulait pas être victime donc, de ce système.
Ce
mot système revient de façon récurrente dans le discours des consommateurs. Mais il y a aussi, dans le fait d'économiser ou d'être rationnel, il y a une valorisation de soi. On se fait plaisir et on peut le dire aujourd'hui aux autres. Avant, il fallait se cacher en disant « bon, j'ai économisé de l'argent », mais il ne fallait pas le dire parce qu'on avait l'impression justement d'être radin et ce n'était pas bien vu socialement. Aujourd'hui, c'est le contraire. On se valorise aux yeux des autres aussi en disant bah, « j'ai fait une bonne opération et je te la conseille », etc.
Oui.
Et c'est gratifiant. C'est gratifiant et ludique d'être radin. Et on a l'impression qu'on maîtrise sa vie.
Oui, alors ludique, c'est vrai, Antoine Joutot, vous me l'avez raconté, il y a des gens qui passent des heures et des heures sur Le Bon Coin, mais non pas forcément à la recherche de la bonne affaire, mais pour savoir ce qui se passe autour d'eux. Hein.
Oui, ça c'est aujourd'hui Le Bon Coin, c'est le troisième site en temps passé en France. C'est un site qui chaque mois gagne plus de temps passé par internaute en France. Alors, au-delà du fait de chercher des bonnes affaires, il y a aussi un loisir qui se crée, qui est de dire tiens, qu'est-ce que vendent mes voisins ? Qu'est-ce que vendent les gens dans ma ville ? Quel type d'objets ils ont à vendre ? Comment évolue ma ville, ma région ? Est-ce qu'il y a des spécificités ? Et ça, c'est un
et
phénomène.
Il y a des spécificités. Et
il y a des spécificités, oui. Puisque les produits dans le nord de la France ne sont pas forcément ceux qui sont les plus vendus en région PACA. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir dans ces régions les évolutions en fonction soit du climat social, soit aussi de la météo. On se souvient, il y a un an et demi, en pleine sécheresse, on pouvait trouver
dans le nord de la France des bottes de paille et les agriculteurs du sud de la France allaient acheter dans le nord de la France ces bottes de paille. Bon voilà, il y a une espèce d'économie qui se crée autour du Bon Coin quotidienne où les gens aussi ont accès à l'intégralité de l'offre de ce qui peut se vendre sur Internet. Et je pense que c'est aussi ce qui est nouveau, c'est qu'avant les radins étaient enfermés
Les radins ou les économes, c'est toujours un petit
peu... Les radins ou les économes.
Ou les curieux.
Ou les curieux. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que le marché est français. Ouais. Et les gens peuvent trouver une affaire. Peut-être que la jeune personne tout à l'heure qui cherchait une poussette double a trouvé sa poussette double à 200 km. Eh bien, il a fait ses 200 km pour aller chercher.
Il a dépensé quasiment le même prix. Non, quand même pas.
Non, parce que ce qui est important, c'est qu'il puisse la faire entrer dans sa voiture.
Oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'était le détail très important. Donc, on voit que c'est une société parallèle hein, qui se construit.
C'est une société parallèle, en tous les cas, je dirais plutôt horizontale hein, par rapport à ce qu'on a connu pendant très longtemps, où les choses se passaient verticalement entre l'offre et la demande. Mais il y a aussi, et vous l'avez dit, beaucoup de curiosité. C'est-à-dire que c'est une espèce de gigantesque showroom qui est ouverte hein, sur tous ces sites, et on peut y aller pour voir tout simplement comment on se promène dans un magasin sans être agressé entre guillemets. Par des vendeurs qui cherchent à tout prix à vous placer quelque chose. Et donc, on peut effectivement y passer du temps sans acheter, au moins tout de suite.
Oui. C'est la même chose sur radin.com.
Alors, sur radin.com, on a l'habitude de dire que c'est une fourmilière. Mmh. Et les radins, on les appelle les fourmis. Ce sont des cigales repenties. Par exemple, on a la dépensière économe, c'est-à-dire qu'elle va continuer à dépenser de l'argent, mais elle va le dépenser avec des bons de réduction parce que ben elle pourra se racheter autre chose en plus. Ça, c'est le côté un peu ludique, effectivement, de la fourmi sur le site radin.com. Mais au-delà de ça, il y a aussi la générosité, la solidarité, parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ben, il n'y a pas le choix, il faut qu'ils dépensent moins de sous, donc il faut qu'ils trouvent effectivement la meilleure façon de consommer au moins cher. Et dans ces cas-là, ils sont généreux, solidaires, ils se partagent ces bons plans et la toile, l'Internet permet justement de partager grâce aux liens que génère le web.
Allez, dans un instant, nous allons poursuivre avec, après les titres du journal de midi, avec vos appels, vos réactions, Julia.
Mais oui, je rappelle le numéro du standard d'Europe 1, 39,21, 34 centimes d'euros la minute. Mais nous vous rappelons évidemment juste après, donc intéressant quand même. Hein. Europe 1.fr, c'est gratuit. La page Facebook d'Europe 1 midi, c'est gratuit. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 midi.
Place au titre de l'actualité avec Marion Calais et vous Patrick Rouget.
Oui, on vous retrouve Marion pour les titres que l'on développera dans le journal de midi et demi tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Et à la une, trois jours après le drame, la ville de Newton aux États-Unis qui enterre aujourd'hui les premières victimes d'Adam Lanzin.
Les corps de deux petits-enfants de 6 ans seront inhumés dans la journée alors qu'hier Barack Obama est venu assister à une cérémonie œcuménique en hommage aux victimes. Le président qui a promis du changement pour éviter de nouvelles tragédies. Nous serons à Newtown dans le journal de midi et demi. On s'interrogera également sur les réelles possibilités de réforme du président. Reportage aussi auprès d'enfants et de parents français qui ont soit éludé, soit évoqué le drame en famille ce week-end.
Dans votre journal de la mi-journée également, le SMIC qui va augmenter de 3 centimes de l'heure au 1er janvier. C'était prévu. Pas de coup de pouce supplémentaire du gouvernement. Explication tout à l'heure et réaction du patron de la CGT, Bernard Thibault.
Dans une demi-heure aussi, l'agacement des Belges face à l'exil fiscal de Gérard Depardieu. Le D-Day pour la Poste. À 8 jours de Noël, les facteurs vont devoir traiter plus de 2 millions de colis aujourd'hui. La rencontre Fillon-Copé ce soir à l'Assemblée, rendez-vous à 18h15 avec peut-être une sortie de crise. Il est désormais question d'un accord sur un nouveau vote en septembre 2013. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le troisième procès de Marc Machin devant les Assises de Paris. Le Crédit Municipal qui tente de lutter contre l'endettement des ménages à cause notamment des soins. Un prêt santé sera lancé le mois prochain. On parlera également football avec la fin de la 18e journée hier soir et la victoire du PSG contre Lyon. 1-0, le PSG qui repasse en tête. On comparera la situation du club de la capitale avec la situation dans les autres championnats européens.
Un peu radin en nombre de buts hier soir, le PSG. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Juste avant 13h également, votre rendez-vous au 39-21. Vous nous appelez et sur une question dans l'actualité, un spécialiste vient vous répondre. Nous reviendrons sur l'exil fiscal de Gérard Depardieu. À midi et demi également, un point complet sur la météo avec vous, Nathalie. Ouais, beaucoup d'instabilité, hein.
Et beaucoup d'instabilité.
Ah bah oui, de l'instabilité.
Même
au
micro.
Hein. Voix,
ouais. Même au micro. Et décidément. Le soleil très radin aussi, hein, de sa présence.
Ah bon
aussi, parce qu'on débute la semaine, c'est vrai, avec ce régime d'averse, ce qui va nous donner un temps très agité où les éclaircies seront de courte durée. Averse plus fréquente du nord-est lyonnais, averse de neige sur le relief, du vent près des côtes et dans les terres. Attention, fortes vagues sur les côtes atlantiques. Et puis beaucoup plus calme, des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, avec quand même un petit peu de soleil. Les températures douces pour la saison, comprises entre 7 et 16 degrés de Belfort à Bastia, 10 degrés à Paris, 12 degrés à Lyon.
Correct, ma foi, à tout à l'heure donc. Hein. Vous êtes d'accord? Vous revenez quand même à...
Je ne serai pas radine de ma présence.
Bon,
oh,
très bien.
Bravo.
Allez, à tout à l'heure.
Europe 1 midi. Patrick Roger.
Selon plusieurs études, les Français sont les touristes les plus radins, notamment concernant les pourboires. Ces nouveaux radins, d'ailleurs, intéressent de plus en plus les distributeurs et les publicitaires pour qu'ils constituent désormais une véritable cible marketing. Alors jusqu'à 12h30 sur Europe 1, on se pose cette question. Sommes-nous tous devenus radins?
Oui, il y a Béatrice qui nous dit « Vivre avec un radin, c'est horrible. Ce sont des gens égoïstes. Tout est calculé, rien de spontané. Pas de générosité. Ben, » c'est ce que nous allons voir tout à l'heure et on attend vos appels, vos témoignages au 3921 pour se remettre et se replonger un petit peu dans l'ambiance. Notre zapper du jour de Quentin Moreau.
Même si l'image de radine est loin d'être flatteuse, Sonia l'assume totalement.
Pour moi, ça pose vraiment pas un problème. Pour moi, je trouve que c'est amusant d'être radin. C'est presque un défaut, d'accord.
Pierre n'est pas du tout un gros radin.
Non, il est pingre, avare, ayant un problème avec l'argent.
Toi, tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans.
C'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner.
C'était un mi-cadeau, connard.
Pour les clients, l'heure de l'addition. Pour le serveur, celle du pourboire.
7 euros, ce qui est royal.
Et pourtant, les clients étaient français. Cette fois, c'est une exception, car sur la Côte d'Azur, nos compatriotes ne sont pas réputés pour leur générosité.
Les radins ont dans leur vie, comme des notes en moins sûres, une mélodie. Mais les radins en sont ravis, car pour eux ce soir, c'est gratuit.
Ah bah c'est gratuit, comme au 39-21, quand on vous rappelle, n'est-ce pas Julia?
Exactement, on vous retrouve avec vos invités sur Europe 1. Valérie Douert qui est rédactrice en chef du site radin.com, Antoine Joutot, directeur marketing et commercial du site leboncoin.fr, Gérard Mermet, sociologue de la consommation, auteur de Francoscopie, Les Français au quotidien, version 2013, aux éditions Larousse, et Michael Ferrari nous a rejoint. Il est coach et créateur du blog Esprit Riche, auteur de Devenir Riche,
et
aux éditions Le Duc.
Oui absolument Julia, et au-delà de tout ça, il y a une question, hein, au-delà de radin économe, l'argent est-il un tabou dans notre société, Gérard Mermet?
Il a été longtemps, historiquement, il suffit de relire les grands auteurs, hein, La Bruyère, Zola, etc., Balzac, pour se rendre compte qu'on parle surtout de l'argent sale, etc., qui corrompt. Donc l'argent, c'est pas bien dans la culture traditionnelle. Les choses ont un petit peu évolué parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de transparence vis-à-vis de l'argent. On parle sans cesse de l'argent, il est au centre de la société, il est au centre de l'actualité et des médias. Chaque jour voit son lot d'actualités concernant l'argent. Alors c'est souvent l'argent des autres. L'argent oui. excessif, celui de Depardieu, celui des grands patrons, des traders, etc. Et cette transparence, elle engendre une frustration, elle engendre peut-être aussi un peu de voyeurisme hein, de la part des Français et aussi des médias qui les aident, mais beaucoup de frustration parce que l'argent, on n'en a jamais assez. Si on est riche, on pense qu'il faut atteindre un niveau un petit peu supérieur et si on est modeste, voire pauvre, ben on se dit que c'est indécent comme ça en période de crise que les autres aient tant d'argent.
Oui, mais il y avait quand même ce fameux dicton, pour vivre heureux vivons cachés, et notamment avec son argent. Donc on n'avait pas envie d'étaler, de montrer ce que l'on gagnait, quoi.
Ben, on a toujours un peu d'hésitation en France à montrer, ouais. à parler d'argent, à donner le montant de son revenu ou de son patrimoine. Mais encore une fois, le système, notamment médiatique, fait que ben, on en parle de plus en plus et que chacun se situe par rapport à cela. Alors ça va quand on est en période où ça allait dans une période de forte croissance, de croissance et de visibilité forte, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et chacun se dit, ben, il faut faire des efforts, il faut que ces efforts soient justement répartis. L'équité est devenue une revendication majeure et ça explique cet énervement des Français face à l'argent.
Alors du coup, Valérie Douert, on parle quand même de l'argent, mais pour dire ce que l'on a réussi à économiser, à gagner à travers les sites, hein, c'est ça?
Oui, on ne donnera pas le montant de son salaire, mais en revanche, ce que l'on a gagné en achetant telle ou telle chose, ça on va le crier haut et fort, c'est un challenge et c'est une réussite. Donc là, pour le coup, on en parle d'argent.
Oui.
Mais il faut savoir que les années 80 sont passées par là aussi. Hein, le bling
les
bling,
années 80, c'est-à-dire, oui, le côté bling
oui.
bling, enfin 90-2000,
même, on existait parce qu'on avait plein de choses, on avait acheté plein de choses, etc. Bon, et aujourd'hui, ça change tout ça. On n'existe plus parce que l'on a.
Oui. Michael Ferrari qui nous a rejoint.
Oui, bonjour. Moi, ce que je constate au travers de mon blog, c'est que l'argent est toujours un tabou. L'argent est toujours un sujet difficile à aborder. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais la manière dont on en parle n'est jamais positive.
Imaginez une soirée ou un repas à déjeuner entre amis avec 4-5 couples ou 4-5 personnes. On a toujours du mal à dire combien on gagne, combien on a dépensé, combien non.
Exactement. Et j'ai beaucoup de lecteurs qui, au travers du blog et des rencontres que j'organise, viennent à ce moment-là pour parler d'argent avec d'autres personnes dont ils savent que on va pouvoir aborder ce sujet.
Ah, pourquoi ? Parce que ils ont un mal de vivre parce qu'ils ne parlent pas d'argent.
Ils n'ont pas un mal de vivre, mais ils souhaitent, ils veulent avancer vers leur indépendance financière. Ils veulent investir leur argent. Ils veulent mieux gérer leur argent et ils ne peuvent pas en parler autour d'eux.
Pourquoi ? Parce que c'est mal vu.
C'est mal vu. Si vous abordez ce sujet-là au travail, on va vous soupçonner. On va dire mais pourquoi il a d'où il sort cet argent ? D'où il sort cet argent ? Est-ce qu'il gagne plus que moi ? Est-ce qu'il a eu un héritage ? C'est louche. Donc on va être soupçonné très très rapidement. Et donc ça pousse les gens naturellement à n'en parler qu'avec d'autres personnes dont ils savent que ça se fait en toute confiance.
Anonyme plus ou moins quoi, par rapport à eux en même temps. Quoi.
Anonyme ou même des personnes que l'on rencontre, hein, qui se connaissent, mais ils savent simplement que avec eux, on peut en parler en toute sécurité.
Oui. Antoine Joutot du Bon Point.
Moi, il me semble que c'est un tabou qui est en train de tomber un petit peu parce que. Je pense que les Français se sont découverts, vous savez, comme ce jeu quand on était petit, quand on jouait à la marchande. Je pense que les gens adorent acheter et vendre sur Internet. Ils commencent à être un peu plus à l'aise avec ça. Et puis tout le monde est rempli d'anecdotes des achats qu'on a fait sur Internet et des bonnes affaires qu'on a faites. Et on est toujours très prolixe pour raconter toutes les bonnes affaires et les bons plans qu'on a eus.
Oui, un peu moins pour les autres.
Un peu moins pour les autres. Mais quand vous vous retrouvez dans une soirée que vous parlez des objets d'occasion que vous avez achetés sur Internet, vous passez votre soirée à parler de ça. Et les gens sont très fiers d'avoir fait des économies ou d'avoir trouvé le produit rare que personne n'arrivait à trouver et eux, ils l'ont trouvé. Après, de là, aller évoquer leur salaire individuellement, ça, ils ne le feront pas. Mais par contre, ils vont peut-être vous dire qu'ils ont claqué 4000 euros sur un tableau.
Oui, alors que c'est une culture dans certains pays. Aux États-Unis, pour ne pas le citer, évidemment, on en parle beaucoup plus ouvertement.
C'est la différence notamment entre la culture d'origine protestante et celle qui est d'origine catholique. Le rapport à l'argent n'est pas le même. Dans le premier cas, on est beaucoup plus libre d'en parler. C'est vrai qu'en France, on parle plus facilement de ses dépenses que de ses recettes. Mais encore une fois, les choses sans être totalement décomplexé, pour prendre un terme qui est à la mode dans certains partis politiques, on en parle un peu plus. On parle des dépenses, je pense que bientôt on parlera quand même des recettes. On le fait d'ailleurs souvent pour s'en plaindre en disant vous voyez ce que je gagne par rapport à un footballeur ou à un artiste ou à un animateur de télévision.
Et d'ailleurs, ceux qui en parlent peut-être le plus facilement sont ceux qui en ont le moins d'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent, hein, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ont du mal et sont parfois parmi les plus radins.
Oui, alors la radinerie, enfin, c'est encore une fois ce terme, bon, générique, je crois qu'il faut le mettre entre guillemets parce qu'il a plus cette dimension péjorative et ne renvoie plus à une dimension psychologique qui serait celui de l'égoïste qui veut absolument pas dépenser son bon argent, qui va le thésauriser, etc. On n'est pas exactement dans cette démarche aujourd'hui. Si on est radin entre guillemets, c'est parce qu'on veut être rationnel et qu'on veut reprendre encore une fois un peu de pouvoir sur sa vie et sa consommation. Et puis c'est aussi parce qu'on a peur de moins bien vivre demain dans cette période de crise et d'incertitude. Donc je crois qu'il ne faut pas stigmatiser les radins comme on stigmatise les riches ou parfois les pauvres, d'ailleurs selon le point de vue qu'on a, mais simplement dire qu'on est dans une société qui est en train de réinventer sa relation à la consommation.
Mais je pense qu'il faut vraiment différencier économe et radin. Il y a quand même un écart significatif. Hein. Le radin, c'est quand même quelqu'un qui a un problème dans sa relation à l'argent. Hein, qui va avoir du mal à le dépenser, qui va consacrer énormément de temps à chercher à faire de petites économies. Donc, il perd complètement la notion de son propre temps, de la valeur de son propre temps. Alors que l'économe, c'est vrai que nous sommes de plus en plus économes grâce à Internet qui nous permet de comparer les prix, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, nous sommes de plus en plus économes, mais...
C'est pas du tout le même rapport.
Si vous avez un ami radin, vous voyez tout de suite à qui je fais référence. Si je parle d'économe, on a tous des amis économes. Hein, l'ami radin, c'est celui qui va jamais vous inviter ni chez lui ni à l'extérieur. Il ne va jamais rien vous payer. Si il vous prête 50 centimes, il va vous le réclamer ou alors il va vous en vouloir. Enfin, vous voyez tout de suite la différence entre les deux.
Non, mais c'est vrai. Complètement, bien sûr. Vous vouliez ajouter quelque chose, Antoine Joutot.
Avant Noël, on peut pas dire qu'on a des amis radins. On a des amis éventuellement économes, mais pas radins, parce que
sinon ça veut dire qu'à Noël vous n'en aurez pas de cadeau de valeur. Vous voyez. Non, mais moi je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut un peu séparer les deux populations. Il y a plus d'économes, je pense, que de radins, et le terme est un peu péjoratif à mon avis, mais il ne concerne pas.
Mais on peut associer le mot malin en fait aujourd'hui à radin. Le radin est malin.
Alors, radin, malin, économe, on attend vos témoignages, vos réactions tout à l'heure, 39-21 et sur notre page Facebook Europe 1 Midi. Et dans un instant, on vous dira aussi comment faire aujourd'hui pour économiser ou gagner de l'argent.
Europe 1 Midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
Sommes-nous tous devenus radins? C'est le thème du jour et nous en parlons maintenant avec Martine qui nous attend au standard, Patrick.
Oui, bonjour Martine.
Bonjour Patrick.
Bienvenue sur Europe 1. Vous voulez témoigner? Vous avez la parole.
Oui, merci. Je suis tout à fait... l'économe et radin, pour moi, n'ont rien à voir. Radin, c'est vraiment un état d'esprit, un état d'être. Et que économe, c'est en temps de crise, alors que même en cas de prospérité, des radins, il y en aura toujours. Je trouve que c'est vraiment une question d'égoïsme aussi, parce que c'est tout à fait penser à faire des économies pour soi-même, économiser, accumuler, entasser, alors que bon, personnellement, je n'ai pas de gros moyens, j'essaye d'être économe pour moi-même, mais à Noël maintenant, je me prive de choses pour pouvoir faire plaisir à tous les gens que j'aime et avec qui je vais passer Noël. Pour moi, vraiment, économe et radin n'ont rien à voir.
Oui. Vous vouliez aussi témoigner pour dire que vous connaissez, en fait, des gens qui ont de l'argent, mais qui ne dépensent peu, hein, ou pas beaucoup, en tout cas, qui ne donnent pas beaucoup.
Par rapport à ma profession où je travaille quand même dans un commerce assez luxueux, de chaussures, je vois des gens, et depuis très longtemps, qui ont vraiment de l'argent. C'est ces gens-là qui vont vous demander des remises, qui vont toujours titiller sur le prix, alors que des gens qui ont des moyens relativement
ne vont pas oser.
Ne vont jamais oser et ne vont jamais parler de ces choses-là. Et en plus, les gens dont je vous cite qui ont énormément d'argent, qui vont aller dans certaines enseignes encore plus luxueuses, là, ne se permettront jamais de demander une remise.
Oui. Michael Ferrari, c'est intéressant ce que nous dit Martine là, sur cet état d'esprit. Hein.
Oui, tout à fait. Pour faire une généralité qui sera forcément toujours un peu fausse, les gens qui ont peu de moyens vont avoir peut-être plus tendance à survaloriser l'argent et donc à pas vouloir négocier un prix, à sentir en rentrant dans ce type de magasin, à se dire je ne peux pas négocier, je n'ai pas assez d'argent. Alors que quelqu'un qui peut-être a un peu plus de moyens financiers se sent peut-être plus à l'aise et va donc plus naturellement aller négocier ses articles.
Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a davantage le sens des affaires, qui s'est enrichi aussi naturellement, Gérard Mermet, hein, c'est ça?
Ceux qui sont effectivement dans les affaires, entre guillemets, ont plus l'habitude de faire
négocier,
ça, c'est dans leur pratique quotidienne. Et puis c'est vrai que le rapport de force, puisqu'il s'agit toujours quand même d'un rapport de force, leur est plus favorable. Ils arrivent auréolés, si je puis dire, de leur patrimoine, de leurs revenus. Et donc, ils ont en face d'eux des vendeurs qu'ils vont considérer comme plutôt inférieurs et avec lesquels il est plus facile de discuter et de négocier. Mais il faut ajouter quand même que l'époque est en train de transformer cette culture de la négociation. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'était inné. Non, je pense que c'est plutôt acquis, le fait de négocier aujourd'hui. On ne le faisait pas tellement dans la mentalité française, mais on se sent obligé de le faire. Et si on ne le fait pas, on se dit qu'on s'est fait avoir. Donc il y a une espèce de spirale infernale dans laquelle on est entraîné.
Oui, alors doit-on en permanence débattre et discuter des prix? Il y a des gens qui ont des tabous, ce que vous disiez tout à l'heure, Michael Ferrari, qui n'osent pas. Il faut le faire ou pas dans la...
Je pense que c'est vraiment une question personnelle. C'est-à-dire que moi, globalement, l'argent, il faut le replacer dans un projet de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire de mon argent? Quelles sont mes priorités? Si on prend les cadeaux de Noël, parce que c'est la période, vous allez avoir les gens économes, intelligents, ce qu'ils vont faire, ils vont prévoir un budget. Ils savent, on sait tous que chaque année, on dépense entre 300 et 500 euros, on va dire, pour les cadeaux de Noël. Pourquoi est-ce qu'on ne prévoit pas chaque mois un peu d'argent de côté pour arriver au mois de décembre et dépenser cet argent de manière économe et avisée, mais sans avoir à être radin. Donc c'est ça aussi, la manière de penser à son argent et à le remettre dans son projet de vie.
Oui, c'est vrai que c'est, pour certains qui en ont la possibilité et les moyens, c'est peut-être aussi un jeu de marchander en permanence, non?
Évidemment, c'est un jeu. Hein, c'est toujours, on le disait, un rapport de force parfois. Hein, c'est une manière... Mais on peut tomber facilement dans le fait de confondre sa propre valeur avec ce que l'on va obtenir comme négociation. Ouais. Si je n'arrive pas à négocier, c'est que je n'ai pas assez.
Non, mais c'est vrai que c'était assez tabou dans notre société de discuter ou de marchander des prix qui étaient affichés en magasin. Avec les sites internet aujourd'hui, ça change beaucoup, hein, Valérie Devoir.
Internet a vraiment permis la négociation entre guillemets parce que l'on peut comparer les prix, on peut prendre les meilleures offres de promotionnelles. Donc c'est une forme de négociation finalement.
Oui. Véronique est avec nous au 39-21. Bonjour Véronique.
Bonjour Patrick.
Allez,
bonjour
dans un instant, vous aurez donc la parole. Vous pourrez nous poser votre question. Hein. Comme Véronique, vous pouvez appeler au 39-21 ou nous laisser des messages sur Internet et notre page Facebook Europe 1 Midi.
Europe 1 Midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
Sommes-nous tous devenus radins? On en parle jusqu'à 12h30 sur Europe 1 avec de nombreuses réactions, Patrick.
Oui, sur Internet, il y a notamment Patricia qui nous dit un bel exemple de radinerie. Tenez, un ami de mon mari, invité à dîner, nous a apporté plusieurs bouteilles. Avant de repartir, il m'a réclamé les bouteilles non consommées. Incroyable, mais vrai. Bonne émission. Merci, merci Patricia. Et merci à l'ami qui ne sera peut-être pas invité de sitôt de nouveau. Vous nous donnerez son contact. Hein. Véronique est en ligne avec nous. Bonjour, rebonjour
Patrick.
Véronique. Oui, vous vouliez témoigner. Hein.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je ne suis ni économe, ni radin, mais j'ai découvert le bon coin et j'ai trouvé que c'était une histoire de bon sens. Ma petite fille de 10 ans, pour Noël, voulait un vélo. Donc moi, elle avait un superbe vélo acheté 150€ il y a 2 ans. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, allez, hop, au lieu d'aller acheter un vélo dans une grande enseigne de sport, je vends le vélo 50€ sur le bon coin. Et ensuite, je vérifie si dans un entour de 20 km, eh bien, je peux avoir un superbe vélo également pour son Noël. Et effectivement, j'ai trouvé un vélo donc à sa taille, donc taille supplémentaire, pour 65€. Résultat, 15€, un superbe vélo. Donc, je ne suis pas économe, donc je n'en ai pas profité pour économiser. Non, j'ai pu la gâter davantage.
Ah oui.
Ouais. Donc, c'est une histoire de bon sens.
C'est une histoire de bon sens, effectivement, le Bon Coin, comme d'autres sites, à condition. Hein, c'est, quelques auditeurs nous disent attention, il faut quand même vérifier d'où ça vient, etc. Il peut y avoir des arnaques. Hein, c'est une petite parenthèse au passage.
C'est une parenthèse, mais je pense que c'est important. C'est de l'achat entre particuliers. Il faut faire preuve de bon sens et faire preuve de vigilance, comme on le fait tous les jours pour n'importe quoi. C'est-à-dire que quand vous allez chez quelqu'un, vous prenez vos dispositions, vous vérifiez le produit, vous vérifiez à l'endroit où vous allez, vous vérifiez à l'heure où vous y allez. C'est votre argent et c'est important cette transaction, donc évidemment c'est un réflexe naturel.
Ouais. Dans ce que disait Véronique, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire que on gère un petit peu mieux finalement ça, et on gère et on répartit ses dépenses pour pouvoir acheter autre chose. Alors c'est exactement comme le témoignage que nous avions diffusé tout à l'heure de Cédric, qui disait qu'il faisait des efforts sans doute pour consommer autre chose. Il y a une nouvelle forme de consommation, c'est-à-dire je restreins un petit peu finalement mon quotidien courant pour m'offrir autre chose, de l'évasion, du plaisir. Gérard Mermet.
Oui, il y a des arbitrages qui se font en permanence. Ils existent depuis longtemps, mais ils se sont accélérés avec la crise. C'est-à-dire que, globalement, on le voit sur le budget des ménages. On consacre de façon relative moins d'argent à l'alimentation, moins d'argent à l'habillement. Et c'est au profit du transport, des loisirs et de la santé, notamment. Donc, il y a ces arbitrages qui vont de plus en plus vite. Et puis, il y a ce sentiment quand même très largement partagé que les entreprises, les marques, les enseignes ont quand même un peu abusé et qu'elles ont, elles en ont trop fait en termes de communication, de publicité, de sollicitation. Et les Français aujourd'hui sont très réticents. Vous savez, il y a une défiance qui est générale. Hein. L'enfer, c'est les autres, et surtout en période de crise. Et donc, on réagit à cela. Vous utilisez tout à l'heure le terme de rebelle, et je crois qu'il est assez approprié. Il y a une rébellion, mais qui en même temps ne met pas en cause la consommation. Moi, je dis souvent qu'on est toujours dans une société de consommation, mais qui est devenue une sorte de société de consolation. Parce que le monde est assez difficile à percevoir, à anticiper, et face à ce monde difficile, on a envie de se faire plaisir et on n'a encore rien trouvé de mieux que de consommer pour cela.
Oui. Avec vous, Michael Ferrari, est-ce que dans la façon de coacher, de gérer au mieux son budget, puisque c'est votre spécialité, est-ce que vous prenez en compte toutes ces dépenses sur Internet, dépenses courantes, comment répartir un petit peu ce qu'on a dans le portefeuille ?
Bien évidemment, quand j'aborde un coaching sur cet aspect-là des choses, l'idée, ça va être de voir quel est le projet de vie derrière. Si par exemple, c'est quelqu'un de plutôt jeune, il est assez probable que cette personne va un jour se marier. même si au départ personne ne dit qu'ils veulent se marier. Donc par exemple, ça va consister à prévoir un budget pour se marier au détriment de petites dépenses qu'on aurait autrement fait. Donc ça va être de couvrir les grands projets de sa vie en priorité,
oui.
Et après éventuellement de dépenser le reste sur Internet ou d'une autre manière en se faisant plaisir.
Oui, vous avez insisté aussi sur quelque chose d'important tout à l'heure, c'est anticiper, prévoir.
Exactement.
C'est pas de la gestion au quotidien, donc finalement il faut anticiper en permanence quand on a moins d'argent.
Exactement, c'est de gérer quelques projets. On a tous quelques projets dans nos vies en termes de dépenses d'argent. Et les cadeaux de Noël, c'est un de ces projets qui revient chaque année. Et on sait que ça revient chaque année, il n'y a pas de doute. Je sais très bien que l'année prochaine, il va y avoir la même chose. Et que si je n'ai pas mis d'argent un peu de côté chaque mois, je vais arriver au mois de novembre, au mois de décembre, à devoir soit me retrouver dans le rouge, soit emprunter de l'argent, soit ne pas faire de cadeaux ou faire des cadeaux moindres que ce que j'aurais souhaité. Donc ça consiste un peu à anticiper, effectivement.
Oui. Antoine Joutot ou Valérie De Weert, est-ce que sur vos sites, il y a des gens qui vendent pour anticiper et offrir des cadeaux de Noël? Il paraît que c'est une tendance. Hein. On vend d'anciens cadeaux de Noël pour acheter les nouveaux cadeaux. C'est difficile, évidemment.
C'est une niche.
C'est une niche.
Hein. Nous, on a... sur le site, il y a 600 000 produits déposés par jour.
Oui.
Donc évidemment, en novembre et en décembre, les catégories jeux et jouets sont des catégories extrêmement prisées puisqu'il y a une vraie activité sur les dernières semaines juste avant Noël. Maintenant, ça reste anecdotique par rapport au volume qu'on représente. Néanmoins, ce qu'on peut voir sur les derniers jours passés, c'est que les gens sont à la recherche de produits un peu originaux. Des produits aussi
même d'occasion, pour Noël, parce
des produits qui ont une histoire,
oui.
Par exemple des vieux jouets, des vieux meubles, ouais, exactement, ouais. Et ça, je pense qu'il y a une notion de plaisir aussi dans l'économie qui est de dire je vais avoir un objet un peu mieux que ce que j'avais avant, comme on a entendu la dame tout à l'heure,
oui.
Un produit qui a une meilleure valeur à mes yeux, et ça c'est assez présent.
Oui. Gérard Mermet.
Oui, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs études sur ce sujet, donc sur la probabilité ou l'envie que peuvent avoir les consommateurs de revendre, de remettre dans le circuit des cadeaux qu'ils ont reçus. Et elle est quand même pas marginale, en tous les cas, dans les intentions et même dans les pratiques, me semble-t-il.
Ça vient après, hein, évidemment.
Ça vient après, bien sûr, le cadeau, soit parce qu'on a reçu plusieurs cadeaux, DVD, etc., identiques, donc on va en garder qu'un, et soit parce que finalement, c'est une façon de se redonner du pouvoir d'achat après Noël, en revendant des choses dont on n'a pas forcément l'utilité ou qui ne font pas très plaisir. Hein. Si on reçoit, une boîte de mouchoirs, enfin, ça ne se fait plus beaucoup, mais et puis c'est pas facile à revendre.
Avec les mouchoirs, vous faites du tourniquet, c'est-à-dire que vous emballez vos cadeaux avec des jolis mouchoirs.
Ah oui, il fallait y penser. Voilà. Oui.
Et ça, c'est le do-it-yourself, justement. Et ça, sur le site radar.com, c'est extraordinaire. La folie sur le do-it-yourself, c'est-à-dire qu'on va dépenser un tout petit peu de sous pour faire un cadeau à quelqu'un, on y aura mis de l'huile de coude et tout son cœur. Et il y a peut-être une dimension là qui est intéressante en tous les cas.
Oui, oui, c'est vrai.
Et l'originalité.
Et de l'originalité surtout.
Oui. Michael Ferrari, donc les gens ont préparé en fait en général, ceux que vous avez coachés, vous, Noël, ou alors ce sont des périodes en fait comme les autres pour eux?
Ils doivent préparer Noël, oui, bien sûr. Ouais. S'ils appliquent un plan de dépenses intelligentes, ils préparent Noël, bien évidemment, pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau comme ils auraient pu le faire peut-être précédemment, à se retrouver stressés avec des émotions négatives ou dans des situations difficiles, parce qu'ils n'ont pas le budget qu'ils souhaitent avoir.
Ce que vous dites est particulièrement important, encore une fois, c'est effectivement ce stress par rapport à l'argent.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. L'argent, notre relation à l'argent peut être une relation très négative.
Que l'on ait d'ailleurs de l'argent, ou que l'on n'en est pas. Quoi.
Exactement, ça n'a même presque pas de rapport. Hein, il y a des gens à la fois très riches, très pauvres, qui ont une relation difficile avec l'argent. Ouais.
Merci à tous d'avoir participé en tout cas à cette émission. Il est évident que de nouveau, après les fêtes de fin d'année, sans doute que les différents sites vont de nouveau exploser pour cette revente de cadeaux, parce que comme le disait Gérard Mermet à l'instant, évidemment c'est pas si marginal que ça. Gérard Mermet, auteur de Francoscopie, les Français au quotidien, édition Larousse 2013.
Moi j'ai compris le cadeau que j'allais vous faire, je vous offre des mouchoirs Patrick. À suivre, le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec moi ainsi que Marion Calais.